Dans ce trajet.
Chapitre 16, qui fait directement suite au chapitre 15, va nous parler précisément des richesses essentiellement. Nous avions rappelé lundi dernier que prodigue veut dire dépensier, celui qui disperse les biens, et voilà que le Seigneur va nous entretenir dans la foulée de la gestion des biens, de la gestion des richesses, et va nous enseigner à apporter une juste valeur, une juste appréciation de ces richesses. Et c'est ce qui nous occupe, c'est ce qui nous occupe ce soir. Donc le premier verset dresse le tableau, il dit à ses disciples. C'est donc ceux qui sont au Seigneur qui sont concernés dans ce récit. Nous rappelons que les paraboles, donc c'est une histoire, il y a une intrigue, il y a des personnages. Mais il faut, à travers les paraboles, retenir la vérité qui est mise en lumière, le principe que le Seigneur veut mettre en évidence. Et pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement pour que nous l'appliquions à nos vies. Donc c'est un cours très pratique. Et c'est vrai que c'est un passage peu connu de la parole de Dieu. On connaît beaucoup plus le fils prodigue. Mais il n'en est pas moins simple, il est très clair et il y a beaucoup d'enseignements pratiques dans ce passage-là. Donc le Seigneur parle d'un maître, d'un homme qui était riche, qui était maître et qui a un économe. Donc pour un peu placer le décor de cette histoire, à l'époque orientale, il y avait dans les maisons, et essentiellement dans les maisons aisées, deux serviteurs qui sortaient un peu de l'ordinaire. D'abord celui que l'on appelait le pédagogue, qui était censé donc s'occuper de l'enseignement des enfants et mener à bien justement cette éducation des enfants. Et puis il y avait aussi ce que l'on appelait l'économe ou l'intendant. On trouverait des mots qui correspondent comme administrateur ou dispensateur. Nous avons parlé jeudi de dispenser la grâce variée de Dieu. Donc faire un bon usage de ces biens qui sont confiés. Donc nous avons là justement cet économe qui était censé gérer l'argent de son maître pour subvenir à tous les frais occasionnés pour qu'une maison fonctionne bien. Donc il avait une somme qui lui était distribué, et il gérait cette somme. Il allait, il avait affaire à des personnes qui, dans les commerces, présentaient, offraient des choses. Il les payait d'une manière ou d'une autre, et en un temps déterminé, eh bien, il rendait compte de son administration, c'est-à-dire qu'il plaçait finalement les comptes devant son maître en disant « Mais voilà, la somme que tu m'as donnée, à quoi elle a servi ?» Et voilà, voilà ce qui reste. Donc là, nous avons affaire à quelqu'un qui est probablement pas un esclave, pas un serviteur, puisqu'il va être licencié. Donc c'est un homme qui est libre et qui va assure cette fonction d'économe. Mais voilà, on a rapporté au maître de la maison qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la fonction donc, de cet homme. On dirait que quelqu'un a vendu la mèche aujourd'hui, selon les expressions de la mode. Et donc, il est convoqué et son maître lui dit ben, « Prends compte de ton administration, elle t'est ôtée. Les comptes sont là, les chiffres sont là. Voilà. La preuve est faite. D'une certaine manière, il n'y a pas à discuter. L'administration t'est ôtée. » Et donc, cet homme va réfléchir en lui-même. Il semble qu'il ait un peu de marge de manœuvre. Et il va manifester certaines qualités de l'habileté, de la prudence, pour finalement faire en sorte que les débiteurs de son maître deviennent ses propres débiteurs et ainsi assurer pour lui un avenir plus confortable que ce qui lui était prévu, puisqu'il dit lui-même « De mes mains, je ne peux pas faire grand-chose » et il voit son avenir un peu sombre. Donc, il va être habile, il va être lucide et il va ainsi manifester des caractères que le Seigneur se plaît d'une certaine manière à mettre en lumière pour que nous puissions ainsi déjà apprendre ce qui plaît à notre maître et aussi le mettre en pratique dans nos vies et donc réjouir dans notre marche le cœur du Père. Et donc c'est tout un enseignement dans ce chapitre des biens qui nous sont confiés et donc nous allons nous y pencher aujourd'hui. Rien ne nous appartient, tout est à Dieu. On croit posséder beaucoup de choses, mais Job dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai ». On est de passage, et pendant ce passage, ben, des biens nous sont confiés. Et comment en faisons-nous usage? Est-ce pour la gloire du Seigneur? Est-ce pour le glorifier, l'honorer? Et c'est tout l'enseignement de ce chapitre qui a trait aux richesses, puisque on n'a pas tout lu comme lundi dernier, mais on ne peut pas dissocier ce que nous avons lu du reste du chapitre. Il y a les pharisiens qui étaient là et qui se sentent aussi un peu pris au piège avec cet enseignement par rapport à l'argent, parce que un de leurs défauts était précisément de l'aimer. Donc le Seigneur va avoir un message pour eux. Et puis il va y avoir aussi une application pratique avec ces exemples que nous connaissons finalement plus que le début du chapitre, avec le pauvre Lazare et l'homme riche qui tous les deux quittent ce monde. Et précisément, il y a un enseignement pratique. Quel usage ont-ils fait des biens qui leur étaient confiés?
En préambule encore, on peut se demander pourquoi le Seigneur Jésus parlait en parabole. On peut discerner plusieurs raisons. D'abord parce qu'en Orient, la parabole est commune. C'est un langage qui plaît, qui est plus commun qu'en Occident. Deuxième raison qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, c'est que ça accomplissait une prophétie. Ça accomplissait le psaume 78. Dans Matthieu 13, il est dit, Matthieu 13, 34, Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole et sans parabole. Il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant « J'ouvrirai ma bouche en parabole et je proférerai des choses qui étaient cachées dès la fondation du monde. » Bon, peut-être une troisième raison, c'est que c'est à cause de la dureté du peuple juif, et on le voit dans les versets précédents, toujours Matthieu 13, verset 10, et les disciples s'approchant lui disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui, répondant, leur dit « C'est parce qu'à vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux il n'est pas donné. Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Et verset 14, par eux s'accomplit donc une autre prophétie d'Ésaïe disant, en entendant, vous entendrez, vous ne comprendrez point, et en voyant, vous verrez, vous n'apercevrez point, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent des oreilles, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Et peut-être une autre raison qu'a introduit un de nos frères, pourquoi le Seigneur Jésus parlait en parabole, pour se protéger. Il est évident que personne, à ce moment-là, ne pouvait toucher le Seigneur Jésus avant que son heure soit venue, comme il le dit. Il dit à Pilate, « Je n'aurai aucun pouvoir sur moi. » C'est vrai. Mais en tant qu'homme, et nous avons de la peine à concilier cette humanité dépendante du Seigneur et sa parfaite divinité, c'est un mystère que nous ne pouvons pas expliquer, mais en tant qu'homme, le Seigneur Jésus ne provoquait pas a priori ses adversaires. Et la parabole, justement, est un langage particulier, voilé, on pourrait même dire codé, pour que ceux qui sont ouverts à la parole du Seigneur, et c'était des fois au début du chapitre 16, on voit des pauvres gens, des prostituées, des publicains, des pécheurs, ceux-là étaient ouverts à la parabole, ils comprenaient le sens de la parabole, mais les adversaires ne comprenaient pas. Et de temps en temps, c'est vrai, ils comprenaient, parce qu'il est dit quelque part, et les pharisiens, ils ont compris que Jésus a donné cette parabole contre eux, mais pas toujours. Justement, c'est un modèle, une méthode pour se protéger. Et c'est bien possible qu'il en soit ainsi. On lirait, par exemple, un exemple, on lirait la parabole du fils prodigue, en Arabie Saoudite ou en Corée du Nord, où c'est interdit même de porter une Bible, on lirait à quelqu'un dans la rue, ça pourrait passer, parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu, il n'y a rien. Les adversaires ne pourraient rien dire, ils ne comprendraient pas. Mais ceux qui seraient ouverts à l'action de l'Esprit pourraient comprendre. Et celui qui parlerait, celui qui lirait ce texte, serait protégé. Sinon, il serait vite en prison. Donc, c'est une raison, alors ce sont des raisons à peser. Et à propos un peu de l'ensemble de ces chapitres, l'évangéliste Luc, c'est un médecin. Un médecin, c'est quelqu'un de rigoureux, d'ordonné, qui apporte des certitudes, il le dit au début de son évangile. Et on voit cet ordre moral dans ces chapitres. Et le Seigneur Jésus parle de Dieu dans tous ces trois chapitres. Il parle au chapitre 14 d'un homme qui fait un grand souper, donc Dieu généreux, il invite tous les gens, toute l'humanité à venir, pauvres et riches, à son festin. Au chapitre 15, un homme avait deux fils, on l'a étudié, et troisième, il a un homme riche. Alors cet homme riche, c'est toujours Dieu, dans tous les cas, c'est Dieu. Jésus nous parle de Dieu. Ça, c'est magistral, quand on pense que Jésus nous parle de Dieu. Donc, cet homme riche, il a un économe. Alors, on peut faire le sens propre de cet économe, dans cette parabole, mais c'est voilé, c'est le peuple juif. Dieu avait donné beaucoup de choses au peuple juif. En Romains 9, l'apôtre Paul énumère tous les privilèges des Juifs. Il en cite sept. On peut les lire rapidement. Ils étaient gestionnaires de bénédictions remarquables. Alors, Romains 9, verset 4. Les Israélites, auxquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, le don de la loi, le service divin, les promesses, auxquels sont les pères, desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose béni éternellement. Sept choses, que dont le peuple d'Israël, seul peuple au monde, était dépositaire, c'était l'économe de Dieu, cet homme riche. Est-ce qu'Israël a été un bon gestionnaire de ces bénédictions extraordinaires? Eh bien non. Mais au lieu de leur dire d'une façon frontale qu'ils avaient été infidèles, peut-être bien le Seigneur se serait exposé là, et a priori il ne le fait pas. Il ne parle pas d'une façon frontale, mais voilée, codée dans le langage de la parabole. Alors évidemment, on peut faire des applications. D'abord le peuple juif, c'est le premier sens. Après, un sens plus étendu, c'est toute l'humanité qui est gestionnaire des biens de Dieu. On l'a déjà vu aussi avec le fils prodigue qui s'en va avec l'héritage du Père. On a parlé de tout ce que Dieu a donné aux hommes, la santé, l'intelligence, la sexualité, la planète Terre, les ressources de la planète Terre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On est gestionnaire de tout ça. Alors, qu'en font nos contemporains? Et on peut se poser la question aussi, troisième tableau, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, nous, chrétiens? Nous sommes aussi gestionnaires de tout ça.
Il y avait un homme riche. Et c'est toujours très touchant de voir quelles sont les expressions que le Seigneur utilise quand il veut soit présenter son Père, soit lui-même. Donc tu en as cité quelques-uns. Il y avait un homme riche, un homme fit un grand souper, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné, au chapitre 19, un samaritain allant son chemin, un créancier avec deux débiteurs, un roi fit des noces pour son fils, et il y en a plein d'autres. Un homme, il y avait un homme riche. Et donc c'est Dieu, et puis il va y avoir l'histoire, on va la développer. Mais dans ce chapitre, il y a un deuxième homme riche. Et ça commence pareil. Il y avait un homme riche, et quand il est parlé du riche et de Lazare. Et en fait, quelque part, si on reçoit mal l'enseignement de la parabole qui est devant nous, et qu'on vit que pour nous-mêmes et que pour nos biens, et dans l'égoïsme, et recroquevillé sur soi-même, eh bien on va ressembler à l'autre homme riche, celui de la fin du chapitre. Ce qui fait que dans cette parabole, on va être invité à ressembler, à avoir des caractères de l'économe infidèle, et on va voir pourquoi, mais aussi, il y a des caractères très beaux chez cet homme riche-là, chez celui qui représente Dieu, et qu'on va voir, et auquel on voudra aussi ressembler. Et aussi dans le contexte maintenant entre les deux chapitres, tu as dit, le fils prodigue, il dissipait, il gaspille sa vie, dissipe les biens, et celui-là, il dissipe aussi les biens de son maître. Le fils prodigue, tout naturellement, ça s'appliquait bien aux publicains et aux pécheurs, comme on l'a dit lundi, et là, ça s'applique un peu plus aux autorités juives, comme tu viens de le dire, au peuple juif qui a fait une administration, une gestion à faire. Et d'ailleurs, ils le prennent très clairement, on n'a pas lu le verset, mais juste après ce qu'on a lu, ils l'ont pris de face, puisqu'ils ont même réagi par la moquerie. Verset 14, et les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendirent toutes ces choses, et ils se moquèrent. Donc ils l'ont pris de face, ils ont bien compris que c'est à eux que ça s'adressait, et il nous a dit qu'ils étaient avares, ce qui va nous donner une clé pour bien comprendre notre parabole. La parabole va nous inviter à la générosité, et à la générosité de la grâce en particulier. Le fils prodigue gaspillait sa vie. Le fils aîné l'a passé, ou l'a laissé passer. Il ne se passait pas grand-chose. Et dans notre chapitre, on va nous proposer, non pas de la gaspiller, notre vie, ni de la laisser passer, mais de l'investir. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas encore dit sur l'économe, hein, le mot économe, donc tu as dit administrateur, gestionnaire, intendant, et il y a deux versets peut-être à citer, au chapitre 12 de Luc, donc qui nous montre que ça s'applique bien à nous, en tout cas le mot administrateur ou économe ou intendant est appliqué dans d'autres passages aux chrétiens, par exemple au chapitre 12 de Luc, verset 42, le Seigneur dit « Qui donc est l'économe fidèle et prudent ?» que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner au temps convenable leur ration de blé. Bienheureux cet esclave que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. Donc il nous est confié aussi une richesse spirituelle, la Bible en particulier, et le Seigneur aimerait qu'on la communique à d'autres, qu'on donne une ration de blé aux autres personnes de la maison, et le faire jusqu'à son retour. Voilà, un administrateur, un économe. Et puis un autre verset, 1 Corinthiens 4, je le lis simplement, « Serviteur de Christ, 1 Corinthiens 4, 1, serviteur de Christ et administrateur des mystères de Dieu, ou économe, ou gestionnaire des mystères de Dieu. Ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. » Et c'était justement ce que n'était pas notre économe de la parole.
Lucien a commencé à parler d'une interprétation en rapport avec Israël. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de cette interprétation? Bon, étant donné que je pense que ce n'est pas la plus importante pour nous, ce serait intéressant de voir dans ce sens-là quelle est la portée de la parabole.
Ce qu'on peut dire, c'est que s'applique à Israël cette parole que l'économe est renvoyé. Enfin, d'abord, il doit rendre compte de son administration, parce qu'il était responsable. Israël était responsable entre toutes les nations, et inversé dans un petit prophète, il vous dit, je vous ai connu, vous, parmi toutes les nations. C'est pour cela que je visiterai sur vous vos iniquités. Donc Israël était responsable. Rends compte de ton administration et tu ne pourras plus administrer. Et donc il est ôté de l'administration. Israël est rejeté pour faire place à l'Église aussi. Bon, il y a un espoir pour la fin. Israël restauré sera de nouveau le gestionnaire des bénédictions divines. Mais pour le moment, il est mis de côté. Et à partir de l'an 70, Israël est complètement rejeté pour faire place au christianisme. Parce que on voit bien la transition au verset 16. On voit dans les évangiles, on a souvent dit qu'on est sur une frontière. Et on est entre une période, la période de la loi. Alors le Seigneur dit, la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc il y a une rupture. Israël est rejeté comme infidèle à son administration. Maintenant, c'est une nouvelle chose. Bon, c'est pas encore l'Église, mais c'est le royaume de Dieu. C'est la sphère où les droits de Dieu sont reconnus, où on fait sa volonté avec soumission et amour. Et le royaume de Dieu est partout où il y a des personnes qui se soumettent à la volonté de Dieu, joyeusement, librement. Alors cette soumission s'apparente à l'amour.
Verset 2, l'ayant appelé, lui dit « Qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi ?» Rends compte de ton administration. On sent une déception, une tristesse chez ce maître. Il entend dire quelque chose, donc avant de juger hâtivement, il va juger sur des faits. Donc il lui demande de rendre compte, d'être précis. Leçon sûrement pour nous aussi. Mais on sent une rupture de confiance ici, entre le maître et l'employé. Et on va voir tout à l'heure comment ensuite ce maître continue à gérer, à s'occuper de son emploi. Rends compte. Alors dans l'application, il y a bien sûr cette phrase qui est forte. Rends compte, car tu ne pourras plus. Et bien sûr, on pense au fait qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela, le jugement. On pense au fait que si le Seigneur Jésus n'avait pas payé pour nos péchés, il y aurait un problème, il y aurait des comptes à rendre, et rends compte, car tu ne pourras plus administrer. Donc un appel pour chacun de nous d'avoir nos comptes en règle avec Dieu, sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus. Et puis, une question qui se pose, est-ce que je termine ma carrière sur ben, « tu ne peux plus administrer » ou est-ce que je termine plutôt comme l'apôtre Paul, « j'ai achevé la course, j'ai accompli ce que le Seigneur m'avait confié » Et ça nous renvoie au figuier de la parabole, aussi dans l'évangile de Luc, quand le jardinier, le maître propose qu'on coupe, et le jardinier dit « non, mais laissons-le encore 3 ans de plus ». Et le maître lui dit, oui, mais pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et la question se pose, est-ce qu'on occupe utilement la terre? Est-ce que nos vies sont au service? Est-ce qu'elles sont investies? Est-ce qu'on continue notre gestion, notre administration pour Dieu? Ou est-ce qu'on est dans cet état comme le figuier d'occuper inutilement la terre? Le figuier ressemble aussi à Israël, tout se connecte là. Mais l'application pour nous, est-ce que notre vie est utile pour le Seigneur?
Peut-être en continuant un petit peu sur ce qui vient d'être dit et sur ces biens dont il est parlé. On vient d'évoquer que ce ne sont pas seulement des biens matériels. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné, est inclus dans cette expression du verset 2. C'est bien sûr des biens matériels, mais c'est aussi nos capacités, nos dons. On reviendra sur ce verset de 1 Pierre 4, dons de grâce, comment nous utilisons ce qui nous a été donné, mais c'est aussi le temps qui nous est donné. On doit gérer le temps que nous avons. Psaume 90 nous rappelle, comptez nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. Ceci fait partie de tous les biens que Dieu nous donne. Le temps en fait partie. Également, la responsabilité que nous avons quant à ce que nous avons reçu. La parole, ceci est évoqué tout à l'heure par Frédéric, et cet évangile que nous avons, on pourrait lire un verset dans l'Épître aux Thessaloniciens qui le rappelle, et puis que nous avons à transmettre de Timothée 2. Donc nous avons une responsabilité sur tous ces différents biens, quels qu'ils soient. Alors lorsqu'on repense à Israël, et lorsqu'on vient de l'évoquer, on se souvient que Israël devait donner la dîme de ce qu'il avait reçu. Alors on pourrait se dire, eh bien voilà, moi je vais déjà donner la dîme, le dixième de ce que j'ai, dans la mesure où c'est quelque chose que je peux compter. Ça c'est peut-être pour les biens matériels. Et alors on pourrait dire, mais je m'arrête là. Eh bien non, et c'est le sens de la parabole, le sens qui est là, tout ce que Dieu nous a donné. Il y a ces 10% que nous pouvons donner, mais Dieu est intéressé et veut que nous rendions des comptes sur ce que nous faisons des 90% restants. Et c'est en ce sens qu'à la fin du paragraphe sur cet économe infidèle, il sera parlé de ces richesses injustes. Elles sont injustes dans la mesure où ce sont nos richesses qui nous ont été données. Ce ne sont pas les nôtres, nous en sommes, comme il a été dit, les gestionnaires. Et lorsqu'on parle de richesses, on pourrait même penser à cette question que Dieu, peut nous demander des comptes sur comment nous avons géré ces biens, en restant sur les biens matériels, mais comment nous les avons acquis aussi. puisque nous faisons fructifier, en parlant des biens matériels, par notre travail, notre activité. Alors, est-ce que ce sont des biens qui ont été mal acquis, bien acquis? La parole parle dans d'autres passages, en particulier l'apôtre en parle dans les épîtres, de gains honteux. Donc il est possible qu'il y ait des gains honteux. Donc voilà tout ce sur quoi nous aurons à rendre compte et qu'il nous faut voir dans ce chapitre et être attentif en pensant que tout nous vient de la main de Dieu, de notre Seigneur. Et nous l'avions dit l'autre fois lundi, que Dieu donne d'abord, il demande ensuite, mais il nous donne. Donc, veillons à tout cela. Et je ne vais pas anticiper sur la suite pour qu'on avance progressivement dans l'expression de ces 16 versets. Mais le tableau initial est important à bien rappeler. Je voudrais terminer ceci par la lecture de ce qui est dit dans le Deutéronome au chapitre 8, qui montre ce que l'Éternel avait demandé à son peuple. Et il disait, voilà, verset 8, « Prends garde à toi, verset 11, pardon, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu pour ne pas garder ses commandements, ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui, de peur que quand tu mangeras, que tu seras rassasié, que tu bâtiras de bonnes maisons et y habiteras, et que ton gros et ton menu bétail se multipliera, et que l'argent et l'or te seront multipliés, et que tout ce qui est à toi se multipliera, alors ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et un peu plus loin, et il a fait cela afin de t'humilier, de t'éprouver, mais pour te faire du bien à la fin. Voilà le but toujours divin, pour te faire du bien à la fin, et que tu ne dises pas dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses, mais tu te souviendras de l'Éternel.
Alors peut-être qu'on peut dire qu'il y a deux principes qui sont posés dans cette introduction. Premièrement, l'idée que effectivement rien ne nous appartient, mais tout nous est confié, puisque c'est un économe, c'est pas un propriétaire. Et la deuxième idée, c'est aussi que nos jours sont comptés et qu'ensuite il va falloir rendre compte, parce que bon, on peut dire il va cesser d'administrer parce qu'il est infidèle, mais je pense qu'on peut aussi élargir à tout être humain et pécheur. Donc, on va mourir un jour, on va cesser un jour son administration. Donc, à ce moment-là, on peut s'appliquer à tous cette parabole. Un jour, l'administration de ce que Dieu nous a confié va cesser. Il faudra rendre compte de ce qu'on en a fait. Voilà. Donc, ça concerne vraiment tout le monde, tous les hommes, tous les êtres humains pécheurs par nature que nous sommes. Voilà. Alors, la grande erreur d'un homme, ce serait de croire que tout est à lui. Et combien d'hommes sur Terre vivent dans cette idée que ce qu'ils ont, ils l'ont mérité, ils l'ont gagné? Et peut-être qu'en se disant qu'ils l'ont gagné, ils oublient que même les capacités qui leur a permis de les gagner, c'est Dieu qui les leur a données. Donc au bout du compte, c'est finalement Dieu qui a tout prêté, qui nous a confié les choses, ne serait-ce que par les capacités qui nous ont permis de les gagner. Et deuxième grande erreur aussi, c'est de penser que tout s'arrête au moment de la mort, ou bien qu'on est éternel, enfin je pense que personne ne s'imagine éternel, d'oublier que voilà, un jour viendra où il faut rendre compte. Alors maintenant, le temps est court, j'ai des choses à gérer, qu'est-ce que je vais en faire?
Donc c'est cette qualité-là que le maître va soulever, va relever, va louer chez son économe, chez son intendant. Donc l'intendant réalise, lui qui était un mauvais gestionnaire, il réalise subitement que le temps dont il dispose, comme tu viens de le dire, avec les biens de quelqu'un d'autre, le temps dont il dispose avec les biens de quelqu'un d'autre est court. Et il va mettre toute son énergie et toute sa priorité vers l'avenir. Avant, il dissipait, il laissait passer, il n'était pas précis ou pas sérieux dans son travail. Et maintenant, il sent enfin que sa vie est éphémère, il réalise que tout ça, ce n'est pas à lui, qu'il en est juste dépositaire, et il va investir ce court temps pour l'avenir, pour son avenir. Et alors, comment il fait? Il rencontre des débiteurs et il leur baisse leur dette. Donc, il y a deux exemples. Il y en a un qui en fait une réduction de 20%, l'autre une réduction de 50%. Alors, je vous cite quand même une citation d'un certain M. Herbert Lockyer, parce qu'elle est bien tournée. Aujourd'hui, les hommes sont coupables d'abaisser les revendications de Dieu au regard de la sainteté et de la vérité par leur estimation erronée de ses exigences. Donc, il y a des gens qui baissent le niveau. Voilà. Donc, première application dans le passage, c'est on baisse le niveau de ce qu'on doit au maître. Et donc, ça se passe aujourd'hui aussi. On baisse, on pense que oui, ben Dieu peut se satisfaire de moi, etc. Alors, il baisse les dettes, et tout ça, bien sûr, pour se faire des amis avec ces gens-là qui vont se dire, ah ben, finalement, il est sympa, les bonhommes, et quand il va manquer, il sera reçu chez eux. Première application, on va dire, de premier niveau, tout simple. Quand on a quelque chose, n'hésitons pas à être généreux, parce que ben, un jour, on sera bien content que, un jour où on a moins, que quelqu'un d'autre soit généreux envers nous. Ça, c'est une première application très de base. Alors, il réduit les dettes et le maître le loue. Il dit, le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Ou avec, oui, avec discernement, il avait enfin investi les choses pour l'avenir, il avait enfin bien travaillé. Et alors on discerne chez ce maître, de nouveau, cette richesse. Vraiment pas du tout intéressé à que son patrimoine ait baissé, beaucoup plus intéressé par son personnel, beaucoup plus intéressé au début du fait qu'il est trompé et il doit le discipliner, et c'est triste. Et ensuite, il voit qu'il agit de façon intelligente et il ne se soucie pas du tout de son patrimoine, ça c'est totalement secondaire, et il le loue, il le félicite, soit directement, soit en tout cas nous on entend qu'il le félicite, parce qu'il voit une qualité morale, enfin, professionnelle ou morale, chez son économe. Ce n'est pas Jésus qui le félicite directement. Jésus, lui, va faire l'application. On pourrait dire ça, c'est peut-être même une finesse de la parole pour éviter de laisser le petit voile, le petit doute, de dire, mais comment ça se fait que Jésus puisse féliciter quelqu'un qui agit de façon, qui vole, finalement, qui vole son maître. Donc, même pour enlever ce voile, il y a une forme de séparation, là c'est le maître qui le loue, puis après Jésus va faire l'application. Mais enfin, c'est vraiment juste de la finesse, puisque depuis le début on dit que c'est le maître, l'homme riche, c'est une image de Dieu. Et voilà, il le félicite, il investit pour l'avenir, il a enfin les bonnes priorités dans la vie, il gère les biens d'autrui pour l'avenir et pour être reçu dans leur maison, et il a enfin cette attitude qui lui manquait, et à ce titre-là, on va donc être invité à ressembler à l'économe, non pas dans sa malhonnêteté, bien sûr, mais dans ce fait d'être tourné vers l'avenir, d'être tourné vers la vraie vie, en utilisant les choses qui ne sont même pas à nous, puisqu'elles sont à Dieu.
Je voulais revenir sur la notion d'injustice des biens injustes. En fait, on ne réalise pas, mais nous sommes nous-mêmes, en Occident, au bénéfice du commerce triangulaire. Et si l'Occident est prospère, c'est qu'il y a des richesses qui ont été obtenues par ce commerce triangulaire. On faisait travailler des esclaves pour nous enrichir. Aujourd'hui encore, le commerce international est loin d'être équitable. Pourquoi est-ce que je gagne 20 fois plus qu'une personne qui travaille de la même façon en Afrique, sur un poste équivalent? Est-ce normal? Qu'ai-je fait pour naître en France plutôt qu'au Mali ou au Zimbabwe? C'est quelque chose qui est complètement immérité. Et l'ingratitude, c'est de ne pas se rendre compte que quelque chose est immérité, voire injuste. Une partie de la richesse de l'Occident est profondément injuste et nous en sommes bénéficiaires. Et le Seigneur nous encourage à en prendre conscience que nous sommes bénéficiaires de faveurs absolument imméritées. Pourquoi ai-je la santé alors que d'autres ne l'ont pas? Pourquoi ai-je mes deux yeux alors que d'autres en sont privés? Pourquoi suis-je né dans ce pays? Prendre conscience, sortir de l'ingratitude et gérer avec intelligence. Nous sommes tous en instance de licenciement. Nous sommes tous avec il y a un mot fin sur notre vie. Et est-ce que nous utilisons avec intelligence ce temps qui nous reste? Il y a le compte à rebours qui est enclenché. Et Frédéric l'a bien dit, ce qui est loué, ce n'est pas le côté mafieux du personnage. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, est habile parce qu'il suscite l'interrogation. Les gens qui écoutent ça sont stupéfaits et ils sont choqués. Moi, on étudiait la parole de Dieu à la Défense lors de déjeuner autour de la parole. Et il y a un collègue qui était venu s'asseoir à notre table, il ne savait pas de quoi on parlait, et puis il écoute la parabole, mais il était choqué. Mais c'est ça l'enseignement de l'Évangile, moi je croyais que c'était positif. Enfin, il ne comprenait pas et il réalisait, nous on a déjà entendu ce truc-là et on le lit lissement, mais les premiers auditeurs de Jésus devaient être choqués, scandalisés. Mais c'est quoi ce truc? Mais vous imaginez, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est choquant! Et Jésus suscite notre attention et notre interrogation. Alors, les biens que nous avons en gestion sont injustes. Nous sommes en instance de licenciement, et moi j'y vois même une petite pointe de reproche, on va y venir plus tard, je pense. Mais le Seigneur Jésus dit, regardez l'habileté des gens du monde. Un homme politique, pour être élu, il est prêt à faire une campagne de diffamation, il est prêt à se donner à fond, à promettre mont et merveille, et vous-même, vous savez, vous avez des convictions, mais est-ce que vous vivez en accord? Est-ce que vous donnez les moyens de ce à quoi vous prétendez? Est-ce que vous vivez en fonction ou est-ce que vous êtes de parfaits hypocrites? Les enfants de ce siècle sont bien peu imaginatifs. Et moi je pensais, en venant ici, on est dans un héritage réformé, un héritage huguenot, est-ce qu'on revendique la liberté de conscience? On est en train de se la faire enlever, on est en train de nous la prendre sous le nez. Et on a des athées qui sont là et qui parlent de laïcité, alors qu'on oublie que la liberté de conscience a été reçue par nos ancêtres qui ont payé de leur prix sur les galères ou sur le bûcher. Et nous, on n'a même pas une plaque commémorative par endroit. J'étais l'autre jour à l'église derrière le Louvre, l'église Saint-Germain, je ne sais plus exactement le nom, où il y a eu les cloches qui ont déclenché à Saint-Barthélemy. Il n'y a même pas une plaque commémorative. C'est nous-mêmes qui laissons des fois des choses qu'on juge sans importance, la mémoire, l'histoire. Et nous aurions des moyens de témoigner à notre société, et des fois nous ne saisissons pas tous ces moyens. Alors j'y vois moi un reproche, moi je l'ai pris comme un reproche personnel que le Seigneur me fait, et qu'il fait à son peuple en disant « Vous manquez d'habileté, vous manquez d'imagination. Regardez les gens du monde, regardez comme ils sont habiles, regardez comme ils sont imaginatifs pour le mal, et regardez comme vous êtes souvent un peu insipides.